Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
En pensant à notre série sur la littérature comparée, nous faisons aujourd'hui une lecture comparée de Lessing, Goethe et Schiller et le 18e français. Les éditions de l'Épervier ont réuni dans un petit et très élégant ouvrage un choix de ces textes. Michael Parer, directeur de la collection des écrivains engagés, est avec nous pour évoquer d'une part cette collection et d'autre part les correspondances, les concordances entre les Lumières françaises et le romantisme allemand. Bonjour Michael Parer.
Bonjour.
Merci de votre visite à Canal Académie.
Merci à vous.
Alors pourquoi cette collection et quelle fut l'influence des Lumières françaises sur le romantisme allemand ?
Alors cette collection a été créée, donc les écrivains engagés aux éditions de l'Épervier, pour mettre en avant les rapports de complémentarité entre les grands auteurs dans des périodes qui nous intéressent plus particulièrement. Et en l'occurrence, avec le choix de Goethe, Schiller et Lessing, c'était pour parler donc des Lumières allemandes et du romantisme allemand. L'idée est, plutôt que d'opposer les auteurs, de montrer ce qui les rapproche. Et donc, en termes de littérature comparée, je dirais que je suis plus intéressé par les points communs que par les différences, par les ponts et que par les trous béants qui sont parfois posés entre les auteurs.
Alors, quels sont les thèmes ? Lessing et le théâtre de Diderot ? Goethe et la philosophie française, Schiller, Rousseau et la Révolution française. Alors Lessing et Diderot et ce théâtre, est-ce Lessing qui lui a plutôt fait connaître aux Français le théâtre de Diderot ?
Lessing est surtout, en fait, en tant qu'il est un dramaturge célèbre en Allemagne et le véritable créateur de ce qu'on appelle le théâtre national allemand moderne, s'est largement inspiré de Diderot et c'est un lecteur des Lumières. Et lui, il a traduit en allemand le théâtre de Diderot. C'est lui le premier traducteur, et quand vous allez en Allemagne, d'ailleurs, les traductions des pièces de Diderot sont inscrites « Lessing Diderot », parce que c'est sa traduction à lui qui est donnée. Et ce qui nous intéressait donc particulièrement dans le travail qu'on a fait sur le rapprochement entre Lessing et la philosophie des Lumières, c'est que Lessing, qui est généralement connu pour être un admirateur de Voltaire, puisqu'il a aussi traduit la correspondance de Voltaire avec Frédéric II de Prusse, eh bien, est aussi un grand admirateur de Diderot. Et c'est en lisant les pièces de Diderot, ce qu'on pourrait appeler les drames bourgeois de Diderot, comme Le Père de Famille, par exemple, qu'il a imaginé de rompre avec une certaine tradition du théâtre classique, imitateur en fait du classicisme français de Corneille et de Racine, pour promouvoir un théâtre qu'il appelait un théâtre de vérité, un théâtre naturel. Voilà.
Mais le théâtre de Diderot a-t-il été connu principalement par Lessing, ou l'avait-il été déjà un petit peu dans ce monde mouvant du 18e ?
Eh bien, il a en tout cas en Allemagne été connu par Lessing, et ensuite, je pense que ce serait intéressant d'en parler un peu ultérieurement, il va l'être aussi par Goethe, qui va être le premier traducteur du Neveu de Rameau, qui n'est pas au sens strict une pièce de théâtre, mais qui est un dialogue, qui donc s'y apparente un peu. Et Lessing vraiment a fait connaître à l'Allemagne le théâtre de Diderot, et d'une certaine manière, le théâtre de Diderot est plus célèbre en Allemagne qu'en France, parce qu'en France, on a été peut-être plus marqué par le théâtre classique et ensuite par le théâtre romantique que par le théâtre des Lumières, spécifiquement celui de Diderot. En fait, le théâtre allemand est né de la lecture par Lessing et de son admiration pour le théâtre de Diderot.
Oui, parce qu'en France, pour faire une petite parenthèse en retournant à la France, le théâtre de Diderot est un petit peu oublié par rapport au théâtre de Beaumarchais qui l'a tout de suite succédé.
Complètement.
Et c'est en ça que le romantisme français a eu une action extrêmement valorisante pour Diderot. J'aimerais que vous nous lisiez quelques passages qui concernent Lessing et Diderot.
Oui, particulièrement par exemple dans les préfaces qu'il a faites à sa traduction, donc de Diderot, Lessing dit des choses sur Diderot qui sont très élogieuses et particulièrement intéressante. Ainsi, il dit dans sa première préface qui est donc de 1760, « Je dirais volontiers que depuis Aristote, aucun esprit plus philosophique que lui, donc Diderot, ne s'est consacré au théâtre. Pour cette raison, il est bien loin de considérer que la scène de sa nation, la France, a gravi les marges de la perfection où nos têtes éventées, au premier rang desquelles le professeur Gottsched la voit déjà trôner. Il concède que ces poètes et acteurs sont encore bien loin de la nature et de la vérité, que les uns comme les autres soumettent la plus grande partie de leur talent à des contraintes artisanales, à la froide étiquette au bon ton. Il est rare que nous guérissions de la misérable manie d'imiter certains modèles français avant que les Français eux-mêmes ne commencent à les rejeter. Et dans la plupart des cas, cela n'est même pas encore suffisant. Tout dépend en effet de la capacité de cet homme, qui n'a pas de plus grand désir que de rétablir le génie dans ses anciens droits et qui reconnaît que le théâtre est capable d'effets beaucoup plus saisissants que ceux dont on peut louer les pièces les plus célèbres d'un Corneille ou d'un Racine, à trouver chez nous plus d'audience qu'auprès de ses propres compatriotes. Et donc là, on voit dans cet extrait comment Lessing, justement, insiste sur le fait qu'il n'y a pas de raison d'imiter le théâtre classique français et que c'est en partant à la lecture de Diderot qu'on va renouveler le théâtre national allemand. Et lui, c'est ce qu'il a fait. Et toute la dramaturgie de Hambourg est née, en fait, de la lecture de Diderot.
Est-ce que Lessing, qui fait partie du mouvement Aufklärung, est aussi percutant dans tous ses autres textes pour glorifier l'hymne à la liberté?
Oui, en général, Lessing est très percutant. C'était un peu sa marque de fabrique. C'était un homme très indépendant qui n'a jamais voulu faire véritablement de compromis avec les différentes institutions en place. Il a créé beaucoup de revues. Il a créé aussi et beaucoup écrit. Il a eu beaucoup de polémiques avec toutes sortes de personnes et toujours sur des questions de liberté, notamment de liberté d'expression. Et lui-même voulait faire du théâtre le lieu d'une possibilité de représenter les choses de manière moderne et donc de défendre l'idée de liberté sur la scène.
Dans un autre de vos ouvrages, vous aviez compilé des documents sur Victor Hugo Lamartine.
Oui.
Et il y a aussi un texte, je fais une comparaison puisque c'est le thème, mais il y a un texte sur la liberté au théâtre.
Oui, de Victor Hugo.
De Victor Hugo, qui montre à quel point c'était un sujet sensible pour tous ces grands écrivains.
Tout à fait. Et alors, dans le texte dont nous parlerons une autre fois, Victor Hugo prend la défense du théâtre contre l'esprit de censure et explique que le véritable censeur du théâtre, ça ne peut être que l'opinion, en fait tout simplement le public, et pas l'État, et pas un gouvernement. C'est ça le sens du texte de l'intervention de Hugo dans un discours qu'il fait à l'Assemblée contre la censure. Et c'est vrai que ça s'inscrit complètement dans ce combat que les artistes, les écrivains, les dramaturges ont mené autour du théâtre pour pouvoir défendre les valeurs qu'il leur paraissait important de défendre, dont la liberté, l'égalité, la fraternité, enfin, voilà, toutes ces valeurs.
Pour Lessing, le sujet était peut-être le même, mais les conditions n'étaient pas les mêmes, puisque Victor Hugo, en France, avait un État centralisé. Pour Lessing, où habitait-il? Quelles étaient ses dates? Et c'était une censure locale d'une petite principauté allemande qui correspondait à l'endroit où il publiait.
Exact. En Allemagne, en fait, du fait que l'Allemagne n'était pas constituée en nation, il y avait ce qu'on appelle des féodalités. Et donc, on dépendait toujours d'un duc, on dépendait toujours d'un baron, de quelqu'un qui, dans la région, faisait autorité. Et bien sûr, des autorités religieuses du coin aussi. Ce qui se passe, c'est que Lessing, lui, a bénéficié de conditions relativement positives, dans la mesure où il a réussi, en fait, à guerroyer comme il a pu pour mettre en scène ses tragédies. Il a été à la fois combattu et admiré, c'était aussi un très grand critique littéraire, très virulent, très moqueur. Il y a beaucoup d'humour chez Lessing.
C'est pour ça qu'il aimait tant Voltaire.
C'est pour ça qu'il aimait tant Voltaire.
Avant qu'on ne parle de Goethe, je vois les dates de Lessing, 1729-1781, Goethe 1749-1832. Vous dites dans votre livre que Goethe était très triste car il ne l'a pas connu. Il aurait pu, les dates auraient pu le permettre, mais ça n'a pas été le cas.
Oui, il ne l'a pas connu, il faut le dire... Pour anticiper peut-être ce qu'on dira par la suite, c'est qu'il y a une raison particulière à cela. En fait, dans Les souffrances d'Eugène Werther, Goethe a portraituré un ami de Lessing. Et d'une certaine manière, Lessing ne le lui a jamais pardonné. Parce que ce personnage qui avait inspiré en fait Les souffrances d'Eugène Werther, à la fin se suicide. Et Lessing, qui était vraiment un homme des Lumières, n'a jamais accepté l'idée du suicide. C'était une idée qui n'allait pas de pair avec son rationalisme. Et bien sûr, elle correspond beaucoup mieux au sentimentalisme et à la sensibilité
du
romantisme de Goethe. Et c'est pour cette raison que les deux hommes ne se sont jamais rencontrés. Et d'autant plus qu'à la fin des souffrances du jeune Werther, c'est une pièce, un écrit de Lessing qui est laissé sur la table de chevet du mort.
Ça fait beaucoup de points précis.
Voilà, ça explique pourquoi Lessing et Goethe ne se sont jamais rencontrés.
Oui, c'était très lourd.
Oui, entre eux, il y avait le plan artistique, en effet, un conflit qui était de cet ordre-là. Et les deux hommes ne se sont jamais appréciés, par opposition à Goethe et Schiller, qui, eux, vont être de véritables amis.
Vous venez d'évoquer les souffrances du jeune Werther. Goethe, tout en étant un romantique, avec le mouvement Tempête et élan, Goethe donc connaissait et appréciait les Lumières françaises ?
Oui, c'est un petit peu, je dirais aussi, l'originalité de ce regroupement, donc, puisque nous avons donné à lire une traduction des notes que Goethe a faites à sa propre traduction du Neveu de Rameau de Diderot. Et quand on lit ces notes sur les philosophes des Lumières, donc sur Montesquieu, sur D'Alembert, sur Voltaire, on s'aperçoit que Goethe appréciait et connaissait très bien les Lumières. Alors c'est intéressant du point de vue de l'histoire de la littérature, parce qu'en général, quand on présente Goethe, on le présente comme un anti-Lumière, puisqu'on dit en effet qu'il est donc membre de ce qu'on appelle le Sturm und Drang, et donc Tempête et élan en français, et donc d'un mouvement littéraire qui a voulu mettre en avant la sensibilité contre la raison. Hein, c'est comme ça généralement que les choses sont présentées. Et ce n'est pas faux, c'est vrai qu'il y a une sensibilité romantique particulière qui ne correspond pas à l'idéal rationnel de certains philosophes des Lumières, et notamment, par exemple, de certains critiques comme Lessing. Mais, en même temps, il y a une très grande connaissance de ces auteurs, et notamment des auteurs français, bien sûr, par Goethe. Et là, on le voit vraiment à l'occasion de la traduction des notes que nous avons réalisées, parce qu'on voit l'admiration, en fait, que Goethe avait pour les philosophes français. Mais je trouvais que c'était intéressant, parce que ce n'est pas ce qui est dit en général sur lui. On le relie plutôt au mouvement qu'on appelle l'Empfindsamkeit, qu'on pourrait traduire par sensibilité, et ensuite au Sturm und Drang. Mais au fond, c'est aussi un grand lecteur des Lumières.
Mais Goethe est un homme polyvalent, puisqu'il a fait des traités scientifiques aussi, il a fait des recherches dans tous les domaines. Et on a l'habitude de dire que, en fait, Goethe, c'est le pic de la Mirandole du romantisme allemand.
C'est vrai. C'est vrai parce que Goethe était tout à la fois un scientifique, un dramaturge, un littérateur. Il a fait beaucoup de découvertes, même au plan scientifique, le découvreur, je crois, de l'os intermaxillaire. Il a aussi toute une théorie très particulière en matière biologique et végétale. Il était à la recherche d'une plante originaire qu'il appelle l'Urpflanze et qui est en fait... il partait sur les traces... Bon, bien que ce ne soit pas exactement ça, mais il partait sur les traces d'une certaine manière, d'une forme d'évolutionnisme. Enfin, il a cherché quelque chose qui ressemble à ça. C'était donc un homme très, très, en effet, polyvalent. Et c'est vrai, un esprit universel. C'est pour ça, bien sûr, qu'il est resté. En ce sens, je trouve qu'il ressemble un petit peu à Montesquieu. C'est pour ça qu'on avait fait le parallèle Voltaire-Lessing, Montesquieu-Goethe et Rousseau-Schiller.
Qu'est-ce que vous avez à nous lire au sujet des textes de Goethe ?
Ah oui, les textes de Goethe, donc ces fameuses notes qui sont ajoutées à la traduction qu'il a faite du Neveu de Rameau, de Diderot, sont intéressantes parce qu'on voit qu'il applique sa théorie du génie, il y a une théorie du génie chez Goethe, qu'il concerne lui plus particulièrement, eh bien, il applique sa théorie du génie aux auteurs français. Et il dit, on les a injustement critiqués, en fait, bien sûr, à chaque fois, comme c'était des esprits polyvalents et des esprits universels, on leur aura reproché à chaque fois qu'ils sortaient de leur domaine de prédilection de le faire. Et, dit-il, il prend leur défense pour ça, entre autres. Et ce qui est intéressant, c'est que le Neveu de Rameau de Diderot, donc le dialogue de Diderot, c'est un texte qui prend la défense des philosophes. Il a été écrit par Diderot au moment où une pièce avait été écrite contre lui, qui s'appelle « Les philosophes ». Et le Neveu de Rameau, c'est une réponse à cette pièce. Et donc, traduire la pièce « Le Neveu de Rameau », déjà, de la part de Goethe, ça veut dire prendre la défense des philosophes des Lumières. Et ensuite, écrire les notes qu'il a faites, c'est renforcer, bien sûr... cette dimension. Alors, lisons par exemple ce qu'il dit sur D'Alembert. Donc il dit « Jamais ne fut discutée la gloire qu'il s'est acquise comme mathématicien. Mais dès lors qu'il a cherché, pour l'amour de la vie et de la société, à étendre le domaine de ses multiples talents à celui de la littérature, les envieux y ont vu une occasion de se mettre en quête de ses faiblesses, dans l'intention de les exposer au grand jour. Il s'agit là de natures hostiles, qui ne savent reconnaître qu'à contre-cœur des qualités même incontestables, et qui ne seraient pas fâchées de pouvoir cloîtrer à proprement parler tout homme de qualité dans la prison de ses mérites. » Et on voit donc qu'en prenant la défense de D'Alembert, c'est lui aussi qui prend la sienne, bien sûr, c'est lui qui le défend. Donc il défend D'Alembert, bien sûr, comme mathématicien et évidemment comme promoteur de l'esprit encyclopédique. Il fait la même chose dans la note sur Montesquieu, où il dit « C'est tout d'abord par ses lettres persanes que Montesquieu se fit remarquer. Le grand effet qu'elles produisirent tenait à leur contenu, aussi bien qu'à la manière heureuse de le traiter. » Par le biais d'une sensualité des plus charmantes, l'auteur s'y montrait capable d'attirer l'attention de sa nation sur les matières les plus significatives, voire les plus brûlantes. C'est déjà fort distinctement que s'annonçait l'intelligence qui allait produire l'esprit des lois. » Et oui, puisque Montesquieu est à la fois un grand écrivain, mais aussi un grand philosophe et un grand théoricien du droit. Et c'est donc cet esprit-là, ce type de génie-là qu'il défend. Et bien sûr, toujours, il se défend lui-même.
Il défend aussi, puisque vous l'avez évoqué, les lettres persanes, parce que Montesquieu comme Goethe, pour en revenir à notre thème de la littérature comparée, sont aussi des grands comparatistes. Et Montesquieu, les lettres persanes, c'est qu'est-ce qui se passe ailleurs ? Et est-ce que chez nous aussi, nous ne serions pas exotiques d'une manière ou d'une autre ? Et ça correspond évidemment à l'esprit de Goethe.
Complètement, ça correspond à l'esprit de Goethe. Ça correspond aussi tout à fait à l'esprit de Montesquieu, qui a construit une philosophie, on parle de cosmopolitisme, c'est parfaitement justifié, puisqu'il a cherché, dans l'esprit des lois, à unifier, à comprendre, de manière justement comparée, en trouvant des dénominateurs communs, et à classer les différents types de régimes, de lois. Et il l'a fait sur la base de cette idée, en effet, qu'il y avait des choses à apprendre du monde extérieur.
Vérité en deçà, erreur en delà.
Exactement.
Ou l'inverse, puisque justement, c'est fait pour être comme ça.
Voilà.
Au sujet de Voltaire, puisque nous avons aussi vu que Voltaire était très apprécié en Allemagne, Goethe a écrit.
Oui, Goethe a écrit une note sur Voltaire, qui est très intéressante, puisqu'il le proclame le plus grand génie français de sa génération.
Alors, à quelle époque a-t-il écrit ça ?
Donc, il a écrit ses notes en 1805, Goethe, hein, puisqu'il a traduit le texte Le Neveu de Rameau en 1805. Et il dit le plus grand bien de Voltaire, donc on peut lire un passage très court, qui est aussi l'expression de la théorie goethéenne du génie. Hein. Il dit « Lorsque des familles se perpétuent durant de longues générations, on peut constater que la nature en vient à engendrer finalement un individu qui comprend à lui seul toutes les qualités de ses ancêtres, en réunissant et en exprimant pleinement toutes leurs dispositions jusque-là éparpillées et seulement ébauchées. Il en va de même avec les nations, dont tous les mérites peuvent, avec un peu de chance, s'exprimer chez un seul individu. » Et cet individu, dit-il dans la note, c'est Voltaire. Et ensuite, il y a une série d'épithètes et d'adjectifs pour le qualifier. La profondeur, le génie, l'observation, le sublime, le naturel, le talent, le mérite, la noblesse, l'esprit, le bel esprit, le bon esprit, le sentiment, la sensibilité, le goût, le bon goût, le discernement, la justesse, la bienséance, le bon ton, le ton de la cour, la variété, la multitude, la richesse, la fécondité, la chaleur, la magie, le charme, la grâce, la serviabilité, la légèreté, la vivacité, la finesse, le brio, le saillant, le pétillant, le piquant, la délicatesse, l'ingéniosité, le style, la versification, l'harmonie, la pureté, la correction, l'élégance, la perfection. Voilà ce qu'incarne pour lui Voltaire.
Est-ce que Goethe n'est pas parfois un peu courtisan ?
Si, toujours un petit peu. Il est toujours très laudateur. Goethe est en effet toujours quelqu'un de très positif. On le voit rarement écrire des choses méchantes sur les individus dont il parle. Et en l'occurrence, donc là, ce sont les philosophes des Lumières, donc il les porte au nu un petit peu. Toujours dans son style à lui, qu'on pourrait trouver très ampoulé, mais qui est aussi très, très vivant et très lyrique.
Oui, et très sensible.
Très sensible,
oui. Et c'est
oui.
Une grande qualité que d'essayer de voir toujours les qualités des gens.
Oui.
Nous allons maintenant parler de Schiller avec Rousseau et la Révolution française.
Oui, alors c'est intéressant de les relier parce que Goethe et Schiller donc étaient amis. Et Goethe, on l'a vu, est un admirateur de Montesquieu, de Voltaire, peut-être un peu moins de Rousseau. Et Schiller, lui, était un véritable admirateur de Rousseau et de la Révolution française au sens où vraiment elle l'a enthousiasmé. Encore plus que Goethe, qui était un esprit prudent et qui, quand il a vu les événements apparaître, et on le dira à la fin, il a même participé à la bataille de Valmy, en tout cas il y a assisté, eh bien, on a pris conscience des bouleversements qui avaient lieu. Et Schiller, lui, a anticipé aussi tous ces bouleversements dans un texte que nous donnons donc en traduction et qui est le discours sur l'histoire universelle que Schiller a donné à l'université de Iéna le 26 mai 1789, donc quelques temps avant la prise de la Bastille, où Schiller réfléchit sur le sens de ce que c'est que le progrès en histoire, et où il comprend que des bouleversements importants ont lieu, et si importants d'ailleurs que une nouvelle page, en fait, de l'histoire de l'humanité est en train de s'ouvrir. Et c'est ce qu'il dit dans ce texte, et là on voit à quel point, c'est vrai, Schiller, qui est généralement classé en littérature comme, avec Goethe, hein, comme membre de ce qu'on appelle le classicisme de Weimar, est plus encore que ça un esprit à la fois révolté et, dans le cas de Schiller, vraiment révolutionnaire. Ce qui est intéressant.
Il faut dire que Schiller, lui, est mort en 1805. Schiller. Donc, il n'a pas la postérité, le recul qu'il faut, comme Goethe, qui, lui, est mort en 1832. Peut-être que, sur le moment, chacun réagit avec son caractère, mais Goethe, lui, a réagi en homme vieillissant.
C'est vrai, et en même temps, c'est aussi une différence de tempérament. Goethe est un homme prudent. Schiller est un homme qui n'est pas spécialement prudent. C'est quelqu'un qui, d'une certaine manière, on pourrait le dire comme ça, il est un peu tout feu, tout flamme. Il s'est certainement d'ailleurs assagi au contact de Goethe, puisqu'ils ont créé ensemble une revue qui s'appelle Les Heures. Et cette revue a été l'occasion d'ailleurs de réunir tous les grands intellectuels allemands de l'époque, il y avait Kant, Herder et d'autres, Fichte. Et dans son contact avec Goethe, il s'est certainement assagi. Mais dans le discours qu'on a donné à lire donc, du 26 mai 1789, on voit le Schiller révolutionnaire, on voit le révolté, qui appelle à un sursaut de la jeunesse, qu'il souhaite ardemment, qui d'une certaine manière va avoir lieu aussi. Parce que par imprégnation, il va y avoir un très fort mouvement républicain après la Révolution française en Allemagne, sur lequel plus tard même Napoléon va s'appuyer. Enfin, c'est une histoire très longue.
Donc Schiller a influencé Hegel ?
Oui, Schiller a influencé Hegel aussi, justement par ce discours, là, celui que nous avons traduit, donc qui est, dont le titre original en allemand est « Quel est le sens de l'histoire universelle et à quelle fin l'étudier ?» En fait, on se rend compte en étudiant ce texte, qui fait une quinzaine de pages, c'est donc son grand discours, puisqu'il venait d'obtenir une chaire d'histoire à l'université d'Iéna, on se rend compte qu'il pose les bases de ce qui va être la philosophie de l'histoire de Hegel. C'est-à-dire l'idée qu'il y a une histoire universelle, qu'on peut la comprendre de manière rationnelle, que le sens ultime de cette histoire est la liberté, qu'il y a des étapes à l'intérieur des différentes phases de l'évolution de l'humanité et qu'elles concourent vers ce point focal qu'est la réalisation d'un nouvel âge pour l'humanité, l'âge de la liberté.
Parce que l'homme remplace Dieu l'histoire.
Exactement, parce que l'homme remplace Dieu dans l'histoire et en lisant le texte de Schiller, on voit aussi toute sa nouveauté puisqu'il va rompre avec les histoires universelles et le genre de discours sur l'histoire universelle tel qu'il était donné par exemple par Bossuet, où le sens en fait fondamental de l'histoire était religieux bien sûr et vu de manière apologétique. Donc Dieu était à l'origine de l'histoire et la commandait. Et avec Schiller, on comprend, même s'il y a une référence aussi à la religion, notamment la religion protestante, on comprend que c'est l'homme qui est au centre, c'est lui qui devient l'acteur de l'histoire. Et ça change complètement la perspective historique. Et d'une certaine manière aussi, je trouve, quand on lit bien en profondeur le texte de Schiller, on se rend compte qu'il est plus radical et plus progressiste encore que ne pourra l'être Hegel. Parce que Hegel, lui, va tenter une reconstruction rationnelle, et il va tenter de légitimer le nouvel ordre en place au moment où il écrit son histoire universelle, mais ce n'est pas ce dont rêve Schiller. Schiller a l'idée d'une révolution française, enfin, d'une révolution générale, en fait, et d'un nouvel âge de l'humanité qui va advenir, et il espère beaucoup dans la jeunesse. Le jeune Hegel sera influencé par cette philosophie, mais ensuite, il va revenir dessus de manière conservatrice, et d'une certaine manière, le texte de Schiller est beaucoup plus progressiste que ne l'est celui de Hegel.
Pouvez-vous nous en lire quelques passages ?
Oui, alors, pour donner un petit peu le style et le ton de ce discours, on peut en lire le début, par exemple, quand il dit « C'est une joie et un honneur pour moi que de m'être vu confier la tâche de visiter bientôt, en votre compagnie, un domaine qui fournit à l'observateur avisé tant de matières à enseignement. » Il parle de l'histoire universelle. « À l'homme du monde actif d'aussi magnifiques exemples à suivre, aux philosophes des élucidations aussi cruciales, et à tous, sans distinction, d'aussi riches sources du plaisir le plus noble. Je veux parler du domaine de l'histoire générale. Et mon devoir se mue en plaisir quand je vois ici des jeunes gens si nombreux et si brillants qu'une noble soif de connaître rassemble autour de moi et au sein desquels s'apprête à éclore, dans certains cas, le génie qui marquera les temps à venir. » Voilà le début, l'incipit, en fait, du discours. Donc on voit le type de souffle, d'ailleurs très romantique, qui est donné dès le début. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment se mêle cette idée du rationalisme, du progrès dans l'histoire et l'histoire universelle, avec en même temps cette forme d'espoir et de sensibilité romantique. Et là, on le voit bien aussi dans le discours de Schiller. Le sentimentalisme et le rationalisme vont de pair. Ils se marient, en fait.
Comme le baroque et le classicisme.
Voilà, comme le baroque et le classicisme. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette manière d'être, on va la retrouver chez les révolutionnaires français plus tard, quasiment identique. C'est-à-dire que les hommes de 93, ceux qui vont arriver à la Convention, ils sont jeunes, ont une vingtaine d'années, certains ont 30 ans, et en fait, ils vont arriver dans cette assemblée, et d'une certaine manière, ils vont y arriver avec cette double influence. D'un côté, l'histoire, l'idée du rationalisme, l'idée que on peut construire une société nouvelle sur une base juste, avec des valeurs nouvelles et sur un système d'équilibre nouveau, et en même temps, avec la volonté farouche et la sensibilité pour le faire, et donc aussi avec la violence qui peut aller avec. C'est intéressant. Et d'une certaine manière, je trouve que ça illustre bien aussi le type de rapport d'interconnexion qui a pu y avoir à ces différents niveaux de sensibilité dans toute l'Europe à ce moment-là, et qui bien sûr va se cristalliser dans la Révolution française d'une manière très particulière.
Une petite conclusion ?
Une petite conclusion, donc oui, comme nous l'avons vu, il y a beaucoup plus de rapports de complémentarité qu'on ne le croit généralement entre les différents auteurs dont on a parlé, donc Goethe, Schiller et Lessing. Ce sont deux grands romantiques et des pré-romantiques, mais aussi des hommes des Lumières. Et ce qui est particulièrement intéressant, je trouve, dans le cas de ces hommes, c'est que justement, ils ont, quand on les étudie en profondeur, ils dépassent les, je dirais, un petit peu les images classiques qu'on a d'eux, et on découvre un nouveau visage, plus progressiste que cela n'est généralement dit, moins conservateur, parce que je trouve qu'on donne malheureusement trop souvent une image de ces auteurs, j'ai envie de dire, un petit peu embaumée, et c'est dommage, parce que c'était des hommes vivants, et d'une certaine manière, assez radicaux, chacun à leur façon.
Merci beaucoup, Michael Parer. Nous allons vous retrouver plus tard pour d'autres auteurs que vous allez désembaumer. Byron Shelley, et puis pour une autre et une troisième émission, Victor Hugo et Lamartine. Donc à
Merci
bientôt.
À vous.